Bien, bonsoir. Merci de nous rejoindre ici. Et merci à toi, Marc, pour continuer notre parcours biblique sur ce chemin de bonheur, sur cette quête du bonheur qui a animé toute l'histoire de l'humanité. La vie bonne, qu'est-ce que la vie bonne? Et forcément, si vous vous souvenez, puisqu'on est plus qu'à mi-route, hein, on est déjà... presque, on voit déjà le bonheur dans l'Apocalypse qui nous occupera, je crois, à la dernière séance, il me semble. Voilà, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Si on regarde le parcours qu'on a fait jusqu'à présent, depuis la tentation de la toute-puissance et d'un bonheur pour soi dans la Genèse, en passant par... les psaumes, en passant par le Magnificat et les énoncés un peu... Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Les énoncés un peu paradoxaux du Magnificat, on avait rencontré ensuite cette charte de la vie heureuse avec les béatitudes. On avait dit d'ailleurs que les béatitudes... était à penser en lien avec l'incarnation. Ça n'est pas une théorie sur le bonheur, ça n'est pas une formulation philosophique, un abrégé de ce que la sagesse antique aurait pu produire de plus parfait, mais que c'était bien en lien avec la révélation de la vie bonne en Christ. Et que lui-même se définit lorsqu'il dit « heureux les pauvres de cœur », etc. Et qu'il y a dans l'expérience d'un certain dénuement, d'une certaine simplicité, il y a déjà l'expérience d'un certain bonheur. La dernière fois, nous avions pris le temps de passer par des textes de Paul, parce qu'on s'était dit que, quand même, dans cette quête qui anime le cœur de l'homme, on n'a pas le temps dans une vie humaine de lire tout ce qui a été écrit, de fréquenter à temps plein des bibliothèques. Et on s'était dit que finalement, quand même, le plus sûr, prudentiellement, c'est d'interroger les personnes qui, par le poids de leur expérience humaine, par le poids aussi de leur engagement au service de l'Évangile, au service d'une cause, sont un peu plus peut-être avancés, sans être des initiés. Le christianisme n'est pas une religion d'initiés. Il y a une égalité de tous les baptisés, bien sûr, devant le mystère de Dieu. Mais il y a des personnes qui, par le caractère un peu exceptionnel de leur activité, de leur engagement, sont des gens qui méritent qu'on s'interroge un peu sur les motivations, sur les mobiles qui les ont animés. Donc c'est pour ça qu'on avait regardé un peu saint Paul, qui n'est pas seulement un théologien, mais qui est aussi un homme qui a risqué sa vie plusieurs fois. Et donc la notion de bonheur, de vie bonne, dans cet horizon de sens, dans cet horizon existentiel, qu'est la vie de saint Paul, n'est pas forcément évident. Et on voit que au terme de sa mission, il dit, voilà, le royaume de Dieu est paix, joie dans l'esprit, et que à la veille, finalement, d'affronter le supplice, il est encore dans la confession de foi et dans cette joie mystérieuse d'avoir été au service de l'Évangile. Alors, ce soir, nous rencontrons un autre témoin de cette quête du bonheur, dans un autre contexte, 3 siècles avant saint Paul. C'est l'Ecclésiaste. Une longue tradition disait que les écrits de sagesse étaient l'émanation de Salomon, parce que la figure du sage, vous le savez, dans l'Antiquité hébraïque, c'était Salomon, le fils de David. Et donc, on réfère en général les psaumes à David, et puis les écrits de sagesse, y compris le livre de la sagesse, qui est le dernier livre de l'Ancienne Alliance, qui est écrit en grec d'ailleurs, on les réfère souvent à Salomon. Évidemment, c'est ce qu'on appelle une pseudépigraphie, c'est-à-dire c'est une référence un peu mythique pour montrer que la personne qui s'exprime veut parler avec l'autorité d'un sage en Israël, à savoir Salomon. Alors, on est au début du 3e siècle. L'ecclésiaste, c'est celui qui rassemble, hein, qui appelle à l'ecclésia. L'ecclésia, vous connaissez peut-être l'histoire d'Athènes, l'histoire de la démocratie athénienne. L'ecclésia, c'est l'assemblée, c'est le rassemblement. Il n'y a pas de connotation religieuse, même si le mot ecclésia va donner église. Et donc l'ecclésiaste, c'est celui qui convoque, celui qui appelle. Les Anglais disent « the preacher », le prêcheur, le prédicateur. Mais c'est déjà presque trop connoté. Saint Jérôme, dans la Vulgate, disait le « contionator », c'est-à-dire l'homme du discours, celui qui parle devant la foule, qui prend la parole devant la foule. Voilà. En hébreu, on dit « kohelet », d'un vieux verbe kaal qui veut dire rassembler. Alors, on est au 3e siècle, donc évidemment, le monde d'Israël, les royaumes d'Israël et de Juda se trouvent à l'époque du Second Temple, on est après l'exil, et le monde juif a perdu son indépendance. Donc, il n'y a plus de théocratie, il n'y a plus de roi. C'est très important pour situer un peu le climat, un peu de désenchantement, de désillusion qui colore l'ecclésiaste, Kohelet. Je dirais l'ecclésiaste ou Kohelet, hein, c'est le même livre. Alors évidemment, c'est un livre qu'on connaît bien, c'est un essai sur la condition humaine qui traduit peut-être une sorte de malaise dans les esprits de l'époque. Comment situer la foi juive par rapport à ce qu'on appelle la sagesse des nations, la sagesse des goyes, qui est quand même ultra présente dans ce monde de l'Antiquité, 3e siècle, l'épicurisme, le stoïcisme, tous ces grands courants de sagesse grecque ont imprégné, ont imbibé le monde juif, et il faut se situer là-dedans, essayer de produire une synthèse. On constate que la vie n'a pas un sens immédiatement donné. On constate que la théologie qui disait que Dieu récompense les bons et punit les méchants, bah, c'est pas si simple, qu'il y a des méchants qui survivent et des bons qui meurent et qui semblent frappés dès cette vie-ci. C'était déjà, vous savez, un siècle avant l'expérience du livre de Job. Donc on est dans une méditation assez étrange, si vous avez lu l'Ecclésiaste, ce que je vous recommande de faire, parce que dans notre société contemporaine, c'est un livre qui passe très très bien. Je rêve d'en faire une lecture à Saint-Eustache. C'est un livre très très postmoderne. C'est une succession d'aphorismes, de réflexions, un peu désabusées, mais pas complètement non plus. Il y a une forme d'apaisement quand on lit l'Ecclésiaste. Le pessimisme de l'Ecclésiaste, dont on parle tant, n'est pas un pessimisme sordide, sinistre. Il y a quelque chose de très apaisant à lire ce livre. Alors voilà, c'est à ça qu'on vous invite ce soir. On a pris des extraits qui croisent un peu quand même le thème du bonheur, et on va essayer de lire ça ensemble. C'est pas forcément évident à commenter. L'exégèse de l'Ecclésiaste, Marc le dira aussi, je pense que c'est pas aussi techniquement performant que sur les évangiles ou sur saint Paul ou sur les prophètes. Je ne sais pas pourquoi je parle devant ça, parce que ça marche.
Merci pour cette
vanité de vanité.
Cette introduction, c'est vrai que moi, sur le sens du verbe kaal, je dirais que c'est quand même, c'est pas rassembler en fait, c'est plus appeler. Et ecclésia aussi en fait, l'idée n'est pas l'idée du rassemblement, au contraire à la limite, parce que ek kaleo, ça veut dire appeler hors de. C'est-à-dire qu'on insiste plutôt sur l'idée d'appel et l'idée de sortir de chez soi. Alors, le rassemblement est plus un bénéfice collatéral, j'allais dire. C'est-à-dire que s'il y a une seule voix qui appelle tout le monde à sortir de chez soi, de fait, bon, les gens vont se rassembler, mais l'insistance est mise quand même plus sur l'appel. Et ça, je crois que dans notre ecclésiologie, c'est-à-dire dans notre conception de l'Église, il y a une conception de l'Église comme rassemblement, comme unité. Et il y a une conception de l'Église comme relation individuelle à cet appel, finalement, à ce Dieu qui appelle, et donc qui est un appel à la conversion, en fait, à sortir de là où on est. Et peut-être que le Kohelet, donc l'Ecclésiaste, c'est un peu ça qui est en cause. C'est une voix qui crie finalement et qui dérange quand même, parce que ça ne ressemble pas aux autres textes. Parce que c'est désabusé, comme tu dis, par rapport à la sagesse, par exemple au livre du Proverbe, il y a une différence en fait importante avec ce côté désabusé, cette question qui est posée, bon, que vaut la vie ? Voilà. Quel profit pour l'homme alors qu'on sait très bien que la vie n'est pas juste finalement ? Et puis qu'on est mortel, alors quelle joie quand on est mortel et que la vie est brève ? Et donc finalement, ce livre, il a failli ne pas être... C'était très discuté, savoir s'il pouvait entrer ou non dans le canon, c'est-à-dire... Parce que la Bible, en fait, ce livre n'existe pas vraiment, si vous voulez, parce que c'est une bibliothèque, c'est un best-of, en fait, des textes qui ont été retenus, donc pour les premiers par la synagogue, vers l'an 70, et pour les autres, par l'Église chrétienne, vers l'an, je ne sais pas moi, 200, il y a encore des livres qui étaient sur la tangente plus tard, Kohelet, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, c'est des livres qui ont failli se retrouver dehors. Il y a un certain nombre de livres qui sont trouvés dehors, dont le livre de la Sagesse, dont tu parles, qui était en dehors du canon, c'est-à-dire de la liste officielle des livres retenus par la synagogue. Ils étaient, donc, comme indiqué dans les livres, deutérocanoniques, c'est-à-dire un peu de deuxième ordre, quoi, voilà, c'est... des livres moins canoniques, voilà, quand même intéressants, mais non canoniques, pas vraiment canoniques. Alors l'Ecclésiaste, c'est incroyable que ça se retrouve dedans, et ça montre l'incroyable ouverture d'esprit, parce que ça tranche, ça n'a rien à voir avec des psaumes, si vous voulez. On va le voir dans ce texte, c'est assez étonnant quand même. Encore là, on a de la chance, c'est que l'idée de Dieu est quand même présente dans ces deux chapitres, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les chapitres de l'Ecclésiaste. Alors, je crois qu'on va pouvoir quand même lire ce
Oui, ce juste texte. Peut-être un petit mot sur la littérature sapientielle, c'est-à-dire la littérature de sagesse. La canonisation, vous savez, le fait donc de figer l'appartenance d'un texte, de donner un canon, c'est-à-dire une liste, ça se fait toujours en plusieurs étapes. Quand on lit le Siracide... Le Siracide, c'est un siècle après ça. On s'aperçoit que lorsqu'il cite Kohelet, il le fait déjà comme un texte ayant une certaine autorité. Donc on voit bien que le processus de canonisation est en cours. Mais la canonisation, presque au sens chrétien, c'est-à-dire les premiers évêques de Rome qui décident de clore le Nouveau Testament en disant « ce sera quatre évangiles, pas un de plus, ce sera tel nombre de lettres de Paul, pas une de plus, etc. » Ce processus s'est fait également dans le monde juif, ce qu'on appelle le synode de Yabné, qui est au bord du lac de Tibériade, au 1er siècle. C'est-à-dire qu'après la destruction du temple de Jérusalem, l'identité juive s'est faite moins autour du temple qu'autour de la Torah, qu'autour des écrits. C'est devenu une religion rabbinique. Et donc, à ce moment-là, le Kohelet a été reconnu comme un texte vraiment canonique, c'est-à-dire inspiré. Je ne suis pas sûr que les Juifs aient la même théologie de l'inspiration que nous, avec l'idée que si c'est canonique, ça veut dire que c'est Dieu qui parle, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi...
Mais nous, on ne dirait pas que c'est la parole de Dieu non plus.
Non, mais on l'a dit, malheureusement, quelquefois, en disant, si c'est canonique, c'est inspiré, c'est Dieu qui parle, et puis donc, voilà.
Ça peut être dans la lecture, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des témoignages d'humains sur la parole de Dieu, on pourrait dire, sur leur expérience de Dieu. Et donc, dans tout témoignage, il y a quelque chose qui est de Dieu et quelque chose qui est de la personnalité de celui qui en témoigne, c'est normal. Simplement, c'est des témoignages qui ont été reconnus comme plus efficaces, plus importants, plus aptes à faire progresser l'homme, les communautés, vers son Dieu, dans sa relation, sa réflexion.
Tout à fait.
On voit du temps de Jésus, quand on dit la Bible, on dit la loi et les prophètes. Donc ces textes-là qui sont dans ce qu'on appelle les écrits, la troisième partie, les Ketuvim, donc c'est la loi, les prophètes et les écrits maintenant. On dit le Tanakh pour la Bible hébraïque, la Torah... les Nabim, c'est les prophètes, et puis Ketuvim, donc les écrits, ça c'est dans les Ketuvim, c'était pas encore dans faisant autorité. Bon, sauf que plus ou moins, parce que les psaumes non plus sont ni dans la Torah, ni dans les prophètes. Pourtant, bon, du temps de Jésus, on chantait les psaumes, en particulier pour la Pâque. Donc il y avait déjà des textes qui étaient ni loi ni prophète, mais bon, ce genre de textes, ils ont été toujours très discutés pour entrer dans le canon, parce que c'est un peu limite. C'est un peu, et le fait qu'ils aient accepté, ça montre quelque chose qui est typiquement juif, finalement, peut-être par rapport à voilà, cette idée pour nous, que c'est cette légende, qu'il y aurait une unité de la Bible, si vous voulez. Les juifs, pas du tout. Ils sont tout à fait le pluralisme, mais au contraire, rendeur à la gloire, à la grandeur de Dieu. Et chaque lettre de la Bible, de l'Écriture, doit au moins 70 interprétations différentes. Et c'est finalement la richesse de l'Écriture pourra être un petit peu honorée quand l'humanité tout entière, c'est-à-dire chaque homme, chaque femme de toutes les générations, chacun, chacune, aura donné son interprétation de chaque verset de la Bible. Pour dire, voilà, il peut y avoir divergence d'interprétation, il peut y avoir des textes qui sont discordants, mais c'est présenté comme rendant honneur à la grandeur de Dieu, voilà, qui est plusieurs pluralités de points de vue, qu'il y ait débat, qu'il y ait interprétation personnelle.
Et d'ailleurs, Jésus, dans les évangiles, dit toujours « que lis-tu dans les Écritures ?» Il parle toujours au pluriel. Donc, il faut faire attention lorsque nous disons « l'Écriture dit » ou oui, déjà oui. Ce monolithisme est suspect et de toute façon, elle ne dit jamais de manière univoque. Cela dit, pour être un peu provocateur, cette théologie de l'inspiration un peu directe, hein, un peu verticale, selon laquelle l'Esprit Saint soufflerait aux scribes, aux rédacteurs, le texte presque à la lettre. Hein, c'est la vision d'un certain islam hein, oui. qui va jusqu'à dire que la lettre est inspirée, ce que n'ont jamais dit effectivement les juifs ni les chrétiens. Mais ce n'est pas inintéressant de voir qu'un texte est canonisé et donc reconnu comme détenant une certaine inspiration, parce qu'un Dieu qui dit « vanité de vanité, tout est vanité », ou un Dieu qui dit « il y a un temps pour tout, un temps pour danser, un temps pour pleurer », je trouve que c'est assez beau, cette idée que finalement Dieu peut se mettre à distance de lui-même et épouser le regard de l'homme, et que dans ce regard de l'homme, il y a déjà la trace d'une expérience spirituelle, y compris dans cette discordance, dans ce porte-à-faux, dans cette espèce de guingois que vit l'être humain, puisque l'être humain est le seul à vouloir que le temps, la temporalité dans laquelle il est plongé ait une signification, bah forcément ça produit du contre-temps. L'homme est toujours à contre-temps, et c'est l'expérience de Qohelet. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ça coince, on est toujours en porte-à-faux avec le temps, avec les valeurs, avec les relations entre nous, avec le monde qui nous environne. Et je trouve que c'est très beau que la tradition juive ait pu assimiler ça et en faire un texte religieux, quoi. Aujourd'hui, certains diraient que c'est uniquement un texte nihiliste. La revue Esprit vient de faire un numéro spécial sur le nihilisme. On dirait que c'est du nihilisme. Ben oui, mais le nihilisme fait partie de notre expérience humaine, et de le prendre au sérieux, c'est très beau. On lit peut-être. Qui veut bien? Allez.
Ah, merci.
Je me suis dit en moi-même, allons, que je l'éprouve par la joie goûte au bonheur. Et voici, cela aussi est vanité. Du rire, j'ai dit, c'est fou. Et de la joie, qu'est-ce que cela fait? J'ai délibéré en mon cœur de traîner ma chair dans le vin, et tout en conduisant mon cœur avec sagesse, de tenir à la sottise, le temps de voir ce qu'il est beau pour le fils d'Adam de faire sous le ciel pendant les jours comptés de leur vie. J'ai entrepris de grandes œuvres. Je me suis bâti des maisons, planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acheté des esclaves et des servantes, j'ai eu des domestiques, et aussi du gros et du petit bétail en abondance, plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des états. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et délices des fils d'Adam, une dame, des dames. Je devins grand, je m'enrichis plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. Cependant ma sagesse, elle, m'assistait. Je n'ai rien refusé à mes yeux de ce qu'ils demandaient, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur jouissait de tout mon travail. C'était la part qui me revenait de tout mon travail. Mais je me suis tournée vers toutes les œuvres qu'avaient faites mes mains et vers le travail que j'avais eu tant de mal à faire. Eh bien, tout cela est vanité et poursuite de vent. On n'en a aucun profit sous le soleil. Je me suis aussi tournée pour les considérer vers sagesse, folie et sottise. Voyons, que sera l'homme qui viendra après le roi? Ce qu'on aura déjà fait de lui. Voici ce que j'ai vu. On profite de la sagesse plus que de la sottise, comme on profite de la lumière plus que des ténèbres. Le sage a les yeux là où il faut, l'insensé marche dans les ténèbres. Mais je sais, moi, qu'à tous les deux, un même sort arrivera.
Je s'arrête là, pour... Voilà. Alors, vous retrouvez bien sûr le mot vanité qui rythme, hein, je crois qu'il apparaît une trentaine de fois dans Coëlette, dans l'Ecclésiaste. Si vous n'avez jamais lu dans son intégralité ce livre, ça se lit assez facilement, ça vaut le coup, je crois, parce qu'il y a une espèce de petite musique. Ça nous déroute, hein, parce que c'est pas une dissertation, c'est pas une argumentation logique, c'est une suite de proverbes, d'aphorismes, de considérations, où on voit que le narrateur, finalement, essaie d'adopter le point de vue du monde, les sentiments de l'homme historique, et pas du tout le point de vue de Dieu. Et je pense que ça vaut le coup, parce que effectivement, régulièrement, il y a cette scansion, ces répétitions, en particulier du mot « vanité ». Alors, quand on dit « vanité », effectivement, on a baigné là-dedans, hein, les moralistes français du XVIIe, La Bruyère, La Rochefoucauld, tout ça, on lu ça, Vanitas Vanitatum, Et Omnia Vanitas, Bossuet le cite, etc. Alors, la vanité ici, ça n'est pas le vice de vanité, c'est pas la vaine gloire, comme on dit. Hein, c'est pas la gloriole, c'est pas l'autosatisfaction. Parce que pour nous, c'est ça la vanité. Vous savez, dans Le Petit Prince, à un moment, il arrive sur une planète, il y a un vaniteux qui parle de lui-même, qui est très narcissique, etc. Alors la vanité, évidemment, ça peut être aussi ça, mais c'est pas ça, c'est le vide. Le mot hébreu, c'est evel. Evel, qui veut dire une sorte de souffle. Mais c'est pas le même souffle que ruach, qui est le souffle créateur, le souffle de Dieu. Evel, c'est la buée. Quelque chose d'extrêmement fragile, qui est difficile à cerner. C'est le même mot que Abel dans la Genèse. Vous savez, Abel, le frère de Caïn, il s'appelle en fait Hevel. C'est le même mot. C'est donc l'homme dans sa fragilité. Et donc, vanité de vanité, c'est ça, souffle de souffle. Buée de buée, donc c'est ce qui est vide, futile, mais en disant futile, c'est déjà trop moral. C'est quelque chose, voilà, qui définit l'homme dans ce qu'il a de plus friable, de plus historique. Alors ça, c'est très typique de la pensée juive, hein. La pensée grecque a du mal à penser ça. La pensée grecque pense l'homme, vous savez, c'est pour ça, la statuaire grecque, à la même époque, exalte l'homme. La beauté de l'homme, la beauté plastique, etc. Donc, le corps, l'âme, le dualisme platonicien, c'est quelque chose qui n'est pas hébraïque. La grande anthropologie hébraïque, c'est quand même de voir l'homme comme un souffle. Et alors, ici, c'est intéressant de voir que, il le dit, je me suis tourné vers sagesse, folie et sottise. Et au fond, alors c'est ça le nihilisme, c'est que sagesse, folie et sottise sont la même chose. C'est-à-dire que voilà, le sage, eh bien, il finira comme l'insensé, comme le fou. Il y a là quelque chose qui peut sembler très pessimiste, parce qu'on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qui va donner de la valeur à l'action humaine ? Justement, je crois que c'est intéressant parce qu'au fond de nous-mêmes, même si nous n'osons pas le formuler, c'est quand même notre expérience première de la vie qui se fait dès la cour de récréation. C'est que, ça n'est pas forcément le juste ou l'innocent qui a le dernier mot. Et quand même, l'expérience humaine, c'est plutôt celle-là. Donc je pense être capable de le dire et de le dire même... littérairement, liturgiquement, c'est important. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai beaucoup d'apaisement personnel à lire l'Ecclésiaste. C'est pas du tout un texte tragique. Souvent, on dit que c'est l'équivalent de la tragédie grecque, parce qu'il y a une mise en garde contre la démesure. C'est pas tellement ça. Enfin, je sais pas ce que tu...
Mais, oui, alors d'abord sur Abel, je crois qu'effectivement, c'est une référence qui est fondamentale, parce que Il y a plein de petits clins d'œil dans ce texte qui font référence à cette première page, ces premières pages de la Bible, parce que Caïn et Abel, c'est Genèse 4, en fait. Et donc, il y a justement deux frères, Caïn, qui veut dire la possession, et Abel, qui veut dire donc la... Comment dire, c'est la petite... oui, comme quand c'est l'hiver et qu'on respire, il y a un petit peu de nuage blanc devant, en fait. C'est ça, le Abel. C'est le souffle de l'homme, voilà. Et donc il y a Caïn et Abel, et Caïn, il semble fort, il est dans la possession, effectivement. Il laboure la terre avec peine et il en sort des fruits. Et puis c'est pas agréé par Dieu. Alors il n'est pas content et il va tuer son frère Abel. Et lui, Abel, il était plutôt donc dans la douceur parce qu'il était berger. Et le travail de berger, on ne possède rien, c'est-à-dire que, comme un peu dans ce texte qui médite sur la brièveté de la vie et l'insécurité de la vie, finalement, celui qui est berger, le troupeau peut attraper la vache folle ou la tremblante du mouton, et demain, on peut ne rien avoir parce qu'on ne possède même pas de terre. On possède des animaux vivants qu'on soigne au mieux, mais qui peuvent mourir demain, et il n'y a plus rien. Alors que celui qui a la terre, il peut faire de mauvaises récoltes une année, deux années, trois ans, sept ans. Mais bon, quand même, le vent tournera et un jour la pluie viendra. Et il y aura une récolte pour se refaire. Il possède au moins la terre, quoi. Donc Caïn tue Abel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la suite ? Eh bien, finalement, Caïn, il meurt dans la tristesse, dans la mauvaise conscience, dans quelque chose de douloureux, en fait. On s'en souvient avec Victor Hugo, hein, l'œil était dans la tombe et il regardait Caïn. C'est terrible. Voilà. Et alors que Abel, il meurt. Hein. Mais on voit à la fin de Genèse 4 que, si vous voulez, y a Caïn qui finit par mourir. Voilà. Et puis Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. Et de Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. Enoch, Enoch, ben c'est en fait Enoch, ça veut dire humain en hébreu. Et donc finalement, la vraie descendance, la vraie humanité, elle passe par Abel finalement, mais par une descendance spirituelle d'Abel, par un autre fils. Voilà. Et quelque part là-dedans, à mon avis, c'est ça qui est un peu en cause. On a au début, on parle par exemple, des jardins, vous voyez. Il y a l'histoire du jardin, ça peut faire référence à ça. Référence à la Genèse, on est planté dans un jardin. Et puis, il y a la possession, la recherche de possession. Et j'ai bien aimé ce que tu disais, voilà, sagesse, folie, sottise. Ça peut être une folie, voilà, tout ça peut être une folie. Alors ça me fait penser, puisqu'on est un peu dans le temps de Pâques, hein, la folie et la sagesse des hommes. La sagesse des hommes est folie pour Dieu. Hein, et la folie de Dieu est plus grande que la sagesse. Donc, il y a un peu de ça ici, parce que même à la fin des possessions, il dit « je possède la sagesse, en fait ». Il possède même la sagesse. Et tout ça, mais qu'est-ce qui reste ? Il reste que Abel, en fait. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la possession. Et puis demain, on peut très bien mourir et il ne reste rien et on ne sait pas ce que ça va devenir. Il y aura une méditation qui va apparaître peut-être plus dans la suite de ce qu'on n'a pas encore lu. Mais Il y a cette méditation sur la mort, on peut posséder tout un tas de choses, demain on mourra et donc on aura à quoi ça sert. On n'y a rien gagné puisque de toute façon on n'en profitera pas longtemps. On ne sait pas où ça va partir peut-être chez des gens fous qui en feront n'importe quoi, et de toute façon ça sera immérité puisqu'ils n'auront pas travaillé pour l'avoir. Alors que finalement ce qui reste, c'est la belle. Et il y a une autre référence, je pense, à ce texte quand on dit que finalement ce qui est important, ce qui reste finalement, tout ça, ce qui reste, c'est la belle, le souffle et la poursuite du vent. Alors là, par contre, ce vent qui est poursuivi, c'est la rouare, là, par contre. Oui. Et donc, ce qui reste, c'est cette recherche de l'Esprit de Dieu. Donc, il y a notre esprit à nous qui est effectivement très fugace. Et il y a l'Esprit de Dieu qui dépasse tout ça. Et l'homme est fabriqué avec la poussière du sol. On la verra arriver à la fin du chapitre 3. Hein. De toute façon, on n'est que poussière et on retourne à la poussière. Mais qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la belle, le souffle, et il reste cette poursuite de l'esprit. Voilà. Donc je crois que c'est quand même en fond de cela, finalement, si vous voulez. C'est en même temps, ça célèbre la beauté de la vie, les plaisirs qu'il y a dans la sagesse, dans la folie, dans la sottise, dans la possession, dans ses plaisirs. Et en même temps, qu'il n'y a rien... Il n'y a rien de là de vraiment solide, et la vraie solidité, elle est dans ce souffle qui nous est donné par Dieu, et cette poursuite du vent, cette recherche de l'Esprit de Dieu, je pense, qui peut seul donner poids à cette poussière que nous sommes, finalement. Donc je crois qu'il y a une grande méditation là-dessus, quand même, et il le fait d'une manière très touchante, je trouve, comme tu le disais, dans ce sort de... En même temps, ça célèbre quand même la beauté de la vie en ce monde. Et en même temps, ça en dit que ce n'est pas essentiel, que la vraie joie n'est pas là. La joie, on va le voir à plusieurs reprises, c'est la joie qui est donnée dans le travail, on la voit là, non? C'est la part qui me revenait à tout mon travail, c'est au milieu là. Finalement, la seule chose qui reste, c'est mon cœur qui jouit de mon travail, qui jouit de mon effort. C'est la part qui me revenait de tout mon travail. Et finalement, ça va revenir plusieurs fois. C'est simplement ça, finalement, qui reste, non? Et ça, on va voir progressivement au cours du déploiement de ce texte que c'est un don de Dieu, en fait. Que logiquement, le travail, il était donné à la fin de la chute, hein, de Genèse 3. Il était donné comme une... La peine dans le travail, c'est donné comme une conséquence de notre vie mal placée. C'est pas vraiment une malédiction de Dieu, parce que c'est la terre qui est maudite, c'est pas l'homme. Mais on nous dit, bon voilà, à force de te prendre pour Dieu, ton travail devient douloureux, en fait. Mais là, on nous promet que vraiment la vraie joie, c'est la joie dans le travail.
Alors, effectivement, moi, ce qui me frappe, parce que j'essaye, en t'entendant, de penser à la personne qui écrit ça, qui était sûrement, qui se faisait l'écho sûrement de tout un groupe. La littérature de sagesse dans le monde juif émanait souvent des fonctionnaires, avant l'exil, des fonctionnaires royaux, probablement parce que c'était des scribes, ils savaient écrire, ils constituaient un peu l'élite intellectuelle. Et après l'exil, donc, ce sont des gens de Jérusalem, qui sont attachés au temple, etc. Donc on disait les sages d'Israël, d'ailleurs. Les sages d'Israël, on considérait que cette petite culture au Proche-Orient avait encore des choses à dire, que certes leur texte fondateur c'était avant, mais qu'ils avaient encore une certaine forme de message à délivrer dans la culture de l'époque. Donc on dit les sages d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que... cet homme qui écrit dans un hébreu assez basique, hein, début du 3e siècle, c'est pas le grand hébreu d'avant, c'est un hébreu qui est un peu abâtardi. Il y a des mots persans, par exemple, hein, puisqu'ils sont sous domination perse, hein. Ils sont pas encore sous domination grecque, ce sera pour plus tard. Ils sont sous domination perse, il y a des mots persans. C'est un hébreu qui est tellement basique qu'il est répétitif. C'est pour ça qu'on a ces effets un peu de style qui ne sont pas vraiment voulus, en fait, ces répétitions, parce que c'est un hébreu qui n'est pas l'hébreu de la Genèse. Et vous savez que 3 siècles après, au temps de Jésus, bah, Jésus ne parlera même plus du tout. Il parlera araméen, qui est la langue qui a fini par s'imposer, qui est une langue sémitique, certes, mais enfin qui n'est pas l'hébreu. Donc je me disais, voilà un homme dans cette antiquité qui connaît comme notre époque, une espèce de mondialisation, à l'échelle de la Méditerranée, bien sûr, mais enfin, un brassage des cultures. Cet homme est héritier, comme nous, d'une grande tradition, et il se retrouve face, un peu comme David devant Goliath, il se retrouve face à des monuments très imposants. Hein. La Grèce a produit déjà ce qu'elle a de plus beau au 5e siècle, la littérature, la philosophie, la démocratie, etc. Il y a le monde romain qui commence à s'éveiller. Et donc, face à tous ces courants, qui viennent en particulier d'Alexandrie, qui viennent d'Égypte, effectivement, un juif de l'époque, avec son Dieu un peu archaïque, il doit se sentir un peu, oui, comme le petit David devant le géant. Il doit se sentir un peu isolé, comme nous, quelquefois. On se dit, mais est-ce que notre culture chrétienne, est-ce que notre foi peut faire le poids devant ces rouleaux compresseurs que sont la technologie, la technolâtrie même, l'hédonisme, c'est-à-dire le culte du plaisir, le consumérisme, tout ça. On est tenté quelquefois de se dire, mais mon Dieu, on va disparaître face à tout ça. Hein, c'est comme Ninive et Babylone, quoi. C'est des empires qui évidemment ne se battent pas avec les mêmes armes que ceux qui mettent leur foi et leur espoir dans le Dieu vivant et vrai. Alors donc, il y a cette volonté d'affronter ce monde-là, mais de le faire sans diaboliser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant. Il est pessimiste, mais c'est un pessimisme... Au fond, c'est le pessimisme du monde antique qu'il prend au sérieux. Au fond, il essaie de parler du Dieu d'Israël avec les mots qui sont les mots à la mode à l'époque. Et les mots à la mode à l'époque, c'est le scepticisme. C'est ce que dira encore Pilate, hein. Qu'est-ce que la vérité ? C'est le scepticisme qui est le rouleau compresseur dans ce monde méditerranéen, parce que tous ces dieux sont en concurrence les uns avec les autres, et il y a des forces vitales plus ou moins en compétition. Et au milieu de tout ça, lui, il hérite de cette foi juive, il ne sait pas trop quoi en faire, et il essaie de la reformuler un peu maladroitement, à travers des concepts, des catégories sur la condition humaine, qui viennent de la tragédie grecque, qui viennent du stoïcisme, de l'épicurisme. C'est peut-être pour ça que moi j'aime autant ce texte, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. Vous savez, dans la Grèce de l'époque, il fallait choisir. Soit on était épicurien, soit on était stoïcien, c'est-à-dire très élitiste. Ici, c'est un mélange. C'est une espèce de sagesse pour les nuls. Un peu. Il y a un petit côté comme ça, une sorte de manuel qui dit, ben voilà, de toute façon, tous ces gens-là, au fond, à un moment, c'est des querelles de clochers, enfin des querelles idéologiques, toutes ces écoles philosophiques. Et donc, vous voyez, on dit que c'est un texte sapientiel, c'est-à-dire un texte de sagesse, mais en même temps, comme l'a dit Marc, il dit que la sagesse, à un moment, ne vaut rien non plus, qu'elle ne vaut pas mieux que la folie. C'est très étrange pour un texte qu'on range dans les écrits de sagesse, parce que forcément la sagesse, on a une vague idée de ce que c'est, donc on dit on va prendre les livres de sagesse et ça va nous nourrir, puis on pourra dormir tranquille parce qu'on sera un peu plus sage. Ben non, il nous dit de toute façon tout ça, ça finit de la même manière. Tout ça, c'est vanité, buée de buée, il n'y a rien, vous pouvez courir après la science, de toute façon, à un moment, il y a un passage très célèbre, plus vous en saurez, plus vous souffrirez. Hein, je ne sais plus dans quel chapitre. Plus il y a de science, science et sagesse, c'est la même chose. Hein. C'est Sophia, en fait, Sophie, hein. Sophia. Puisque l'idée de la science et de la sagesse, c'est que dans ce monde antique, il n'y a pas de compétition, c'est nous qui avons séparé les deux choses. Donc, plus vous en saurez, plus vous souffrirez. Alors, c'est très étonnant pour un texte de sagesse de détrôner autant la sagesse. Mais moi, je pense que, justement, c'est une pensée un peu limite, un peu comme Job aussi était une pensée limite. C'est-à-dire, voilà, on maintient la foi en Dieu et en même temps, on l'accuse, on lui dit, qu'il est à l'origine de tous les maux, etc. Parce que c'est ça qui est très tendu dans ce texte, c'est ça qui est magnifique, c'est pour ça qu'il faut le lire, c'est qu'il essaie de faire coexister des choses qui ne peuvent pas marcher ensemble. Parce que, en même temps, les derniers mots du Qohélète, on peut brûler les étapes, c'est quand même, c'est de dire que rien ne vaut la crainte de Dieu et le respect de ses commandements. Le dernier verset de l'Ecclésiaste, c'est un appel à la foi. C'est un texte de foi. C'est en ça qu'il est magnifique. C'est-à-dire, c'est un texte de foi qui fait droit en même temps à l'écœurement, au désenchantement, etc. Et c'est le chanoine Ostie qui disait ça. Vous savez, le grand traducteur de la Bible, dont on a lu la traduction justement ce week-end à Saint-Eustache, traduction de Saint-Marc. Ostie disait... le livre de l'Ecclésiaste a exorcisé pour toujours le sortilège des enchantements du monde. J'adore cette phrase. Il a exorcisé pour toujours les sortilèges de l'enchantement du monde. Parce qu'effectivement, la tentation païenne, c'est toujours de vouloir réenchanter le monde, de dire que voilà, le monde, on va le désirer, on va en faire un objet de jouissance, on va rendre un culte à Vénus, on va rendre un culte à la force, on va rendre un culte au prestige, à la beauté, parce que effectivement, quand on n'a plus aucune foi, ben on se tourne vers tous les prestiges de ce monde. Et définitivement, l'Ecclésiaste, c'est même pas qu'il jette un voile de cendre, c'est pas ça, parce que c'est pas du tout pénitentiel. Mais il dit de toute façon tout ça, c'est pas la peine de compter dessus parce que il y a cette fragilité, il y a ce souffle, il y a cette Abel qui fait que une heure de souffrance peut suffire à éliminer 40 années de jouissance. Et c'est vrai, d'ailleurs, on le sait très bien. On sait très bien qu'une seule heure d'expérience malheureuse peut suffire presque à balayer tout un passé de bonheur, et parce qu'il y a ce grand mystère de l'iniquité, ce grand mystère du mal. Et Qohélète, finalement, nous invite à ne pas trop dramatiser. C'est un texte qui n'est pas dramatique. Il dit c'est comme ça. Et qu'il faut continuer à agir dans ce monde sans chercher forcément à connaître le sens ultime de l'action humaine. Vous savez, c'est dur à entendre pour un occidental, parce que l'occidental, quelquefois, il ne veut pas agir tant qu'il n'a pas clairement sa feuille de route, son cahier des charges, son organigramme. C'est ça qui paralyse, d'ailleurs, la vie de nos sociétés, bien souvent. C'est-à-dire qu'on ne veut commencer à agir que lorsqu'on aura tout maîtrisé, cadenassé, les bonnes équipes, les bonnes personnalités, les bons curriculum vitae. Et en fait, non. À un moment, il faut accepter d'agir sans détenir le sens ultime. Et c'est le reproche que fait Qohélète à la sagesse. La sagesse, pour Qohélète, c'est un monde clos. C'est un système qui prétend donner l'explication dernière du monde. Or, on s'aperçoit, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, que personne n'y arrive. Et nous, 2300 ans après, on fait la même expérience. Et Dieu sait pourtant qu'on a fait des progrès, et que c'est formidable, et qu'on sait des tas de choses qu'eux ne savaient pas. Mais il y a cette même arrière-goût de ne pas quand même savoir, de ne pas avoir la dernière clé de la dernière porte. Et Qohélète dit, ben voilà, c'est pas très grave. J'adore le texte.
Mais quand même, là, je sais pas, il garde quand même l'idée de la joie dans le travail. Et ça, c'est quand même un appel à goûter cette joie quand même de faire quelque chose. Non, enfin, je sais pas.
Ah, ben,
il y a quand même une joie. Et qui est, finalement, c'est ça la part. Mais peut-être que dans cette critique, en t'écoutant, je me disais peut-être que quand il décrit ses richesses extraordinaires, ses constructions, cette sagesse, dans un sens, c'est une critique du système formidable d'Athènes, de la Perse. Et il y a comme quelque chose qui dit la beauté de l'humilité, finalement. Parce que là, le paysan qui travaille sa terre et qui le travaille avec en goûtant la joie qu'il y a de faire son travail, dans un sens, il est comme un prince, en fait. Et voilà. Alors, là, quand même, la sagesse, c'est pas ça qui sauve, hein, visiblement. Et ça, c'est, je crois que, oui, c'est une polémique. Ça parle bien de la sagesse. Mais par rapport à des livres comme les Proverbes dans la Bible, où la sagesse est quasiment personnifiée, c'est-à-dire que, vous savez, au début de la Bible, il y a marqué « Créons, Dieu dit, créons l'homme à notre image, hein, selon notre ressemblance. » Grande question de savoir quel est ce pluriel. Alors les chrétiens disent « Bah, c'est la Trinité ». Le problème, c'est que la Trinité, ça a été inventé au facile 2e, 3e siècle. On n'en parlait pas avant. Donc c'est peu vraisemblable. Ensuite, y a des juifs qui disent, ben voilà, c'est Dieu et la sagesse en fait. Dieu et la sagesse de Dieu qui se mettent ensemble pour créer, parce qu'il y avait une personnification de la sagesse dans des, dans certains milieux juifs. Mais là, on n'est pas du tout dans cette veine-là.
Non. Il y a Dieu. C'est amusant ça.
Et il y a pas la sagesse, c'est finalement un outil. Il dit, ben quand même, c'est quand même plus pratique. Le sage, il a quand même les yeux ouverts, quoi. Ben, c'est plus facile que d'aller se cogner n'importe où comme une mouche sur les vitres. C'est simplement plus pratique. C'est pas ça qui sauve quand même. Et ça, je trouve que ça remet la sagesse à sa place finalement. Ça remet la sagesse à sa place. Alors il y a peut-être dans le début là la sagesse un peu arrogante. On va voir dans la suite une sagesse qui vient de Dieu, qui est quand même un don. Mais je crois que ça reste quand même un outil au service d'eux. Alors on peut s'interroger justement de quel type de sagesse, à la limite quel type d'éthique, de morale, quelle est, comment vivre alors? C'est un peu la question de ce texte. Comment vivre si, de toute façon, on va mourir et donc on ne laisse rien, finalement. On ne laisse rien et même nos actions, celui qui construit des pyramides en se disant « on se souviendra de moi dans 4000 ans ben, », un peu oui, mais si on attend encore 400 000 ans, il ne restera rien de sa pyramide et donc devant l'éternité, c'est de toute façon qu'un souffle. Donc, tout ça, de toute façon, on peut se dire, mais voilà, si la vie est brève, si de toute façon notre souvenir est de toute façon oublié très rapidement, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert pour l'instant, finalement, peut-être, l'instant de joie qui est vécu. Et ça, je trouve qu'il y a quand même une sagesse qui est là, qui nous invite à goûter les petites joies dans la vie de tous les jours. Et ça, je crois que là, il y a quelque chose qui est une expérience auquel nous sommes invités, d'une louange toute simple. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui, même s'il n'y avait plus rien, peut garder son sens, non ? Ensuite, on va voir que plus loin, il va déployer quelque chose qui est de l'ordre d'une éternité, mais ce sera dans le chapitre 3, un peu plus loin. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est dans cette expérience de la vie courante. Mais ça, je crois que c'est quand même intéressant, parce que c'est possible que l'Ecclésiaste ait eu finalement un succès plus grand qu'il ne semble, et beaucoup moins anecdotique qu'il peut le sembler dans le paysage de ces livres, de ces écritures, parce que finalement, les autres peuples autour d'Israël, on le dit souvent dans ce groupe, les autres peuples étaient très préoccupés par la vie future. Lui, enfin, la Bible hébraïque, pas du tout. Ils disent, pour ce qui est de la vie future, oublions ça, c'est pas la question. Intéressons-nous à avoir une vie vraie, juste, dans ce vie présent. C'est le défi, c'est l'enjeu, c'est la responsabilité, c'est là qu'est la préoccupation de l'homme aujourd'hui, c'est vivre ce temps dans lequel nous sommes. Ni le temps futur, le temps passé encore, on peut en tirer des leçons. On peut essayer de faire avec sagesse justement des perspectives et voir où ça nous mène, mais de toute façon, c'est quand même notre temps ici, parce que de toute façon, au-delà, c'est de l'inconnaissable et ça appartient à Dieu, donc ne vous en préoccupez pas. Jésus est un peu de ce style-là aussi, il ne fait pas de grands discours sur la vie future. Lui, il tranche plus, il dit ça existe, mais finalement, ne vous en occupez pas. L'important, c'est de vivre aujourd'hui et maintenant de la vie véritable. Mais finalement, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'Ecclésiaste, finalement, non ? Une invitation à la vie présente et à cette joie à recevoir comme un don dans la vie présente.
Mais c'est impressionnant parce que, effectivement, je pense que pour beaucoup de gens, La Bible, pour eux, surtout s'ils ne le connaissent pas bien, ce livre, est un livre religieux qui parle d'une vie après la mort, d'une vie éternelle, etc. Donc c'est pensé à travers une métaphysique, une mystique. Et je pense que parmi les grands textes de l'Antiquité, c'est un des textes qui en parle le moins, effectivement. Parce que toutes les religions orientales, c'était des religions de l'au-delà. C'était des religions du salut, c'était des religions... Pensez à l'Égypte, évidemment. Pensez aussi au monde grec. Dans les tragédies, on parle de l'Hadès sans cesse. La Bible est un univers littéraire, religieux, qui parle très peu de ça.
Mais c'est pas qu'ils en avaient pas entendu parler, il faut pas
rigoler. À part dans les Maccabées, on n'en parle quasiment jamais. C'est... Alors qu'ils baignaient là-dedans, évidemment, et que... Alors, on dit que certains courants juifs ne croyaient pas en une survie après la mort. Les courants sadducéens, les courants les plus conservateurs, les plus, comment dire, les plus arc-boutés sur une lecture très, très minimale de la Torah. Mais effectivement, je crois que c'est quelque chose peut-être à dire. Quand on est interrogé sur la Bible, beaucoup de gens y voient une sorte de manuel spirituel, spiritualiste, qui promet une vie au-delà, etc. Alors, évidemment, il en est aussi question, mais c'est pas ce qui est premier. Ce qui est premier, c'est bien la manière d'être. Hein. Alors, on peut même dire cet art de vivre, puisqu'on est dans des textes de sagesse.
Mais alors, oui, la question c'est quel intérêt à vivre bien finalement ? Si on se dit je veux vivre bien pour avoir le paradis, c'est encore de l'égoïsme en fait. On vise quand même son salut, son intérêt personnel, ça reste de l'égoïsme, c'est plus de la grâce. Il y a des gens, vivre bien, ça pourrait être pour respecter les règles. Pour respecter les règles, et si on respecte les règles, à ce moment-là, Dieu récompense. Bon, alors finalement, ce serait une éthique du devoir. Peut y avoir une éthique peut-être aussi de l'utilité, en disant ben, c'est utile finalement d'agir bien parce que ça produit de la vie. L'Ecclésiaste est assez désabusé par rapport à ça. De toute façon, ça sert à rien finalement, puisque de toute façon, tout le monde va tous mourir bientôt. Donc il torpille ça aussi, ce qui est quand même plus rare dans la Bible, parce que quand même, il y a l'idée assez générale dans la Bible que quand on agit bien, quand on prie, quand on étudie, quand on fait le bien avec l'autre, eh bien, on se construit et on construit un monde. On participe à la genèse du monde. Ici, le seul intérêt de participer à la genèse, c'est que c'est là qu'on nous donne la joie, en fait. Et c'est finalement cette joie qui donne sens. Alors, est-ce que ce n'est pas justement le minimum minimorum ? Même pour les jours de détresse et de déprime, finalement, hein, de se dire, bon, finalement, ça sert à rien, rien n'a de sens, ben, y a quand même ça, le fait de bien faire et de s'en réjouir, de faire quelque chose pour la beauté du geste. Mais je me demande si, finalement, quand on nous dit dans l'Évangile qu'on est sous la grâce de Dieu, il n'y a pas quelque chose de ça aussi, en disant, de toute façon, tout nous est donné d'avance, l'amour de Dieu, voilà, donc on ne fait pas pour gagner des bons points auprès de Dieu. On le fait pour la beauté du geste, pour la joie d'agir et d'agir bien. C'est pour la joie, pour la beauté du geste, finalement.
Alors, il y a ça, parce qu'il y a un épicurisme, hein, c'est sûr, de Coëlette. Quand on dit épicurisme, hein, c'est vraiment au sens historique. Hein. Épicure n'était pas du tout, évidemment, un jouisseur, hédoniste, etc. C'est l'idée que la vie bonne, le souverain bien... est dans l'attitude intérieure, la manière dont on met en œuvre cette vie, dont on use du monde, la manière d'entrer en relation avec l'autre, la manière de consommer, etc., de trouver une justesse qui ne soit jamais dans la démesure et qui, c'est un peu aussi l'intuition bouddhiste, hein, qui n'alimente pas l'infini du désir. puisque l'infini du désir, de toute façon, ne sera jamais satisfait. Donc, il faut essayer de le limiter pour éviter la souffrance. On trouve cette intuition, évidemment, aussi en Inde. Je crois que c'est un des thèmes sous-jacents de l'Ecclésiaste, à savoir que le désir de l'homme, de toute façon, est sans fin. Et les promesses d'assouvissement du monde sont, eux, très limitées. Donc forcément, il y a cette expérience que l'on fait lorsqu'on sort de l'enfance, lorsqu'on sort de l'adolescence, ou lorsqu'on est à des tournants de notre vie, on découvre qu'il y a un abîme entre cet infini qui nous habite, ce désir d'infini, qui est d'ailleurs peut-être pas seulement une trace de démesure, comme disent les tragiques grecs, qui est peut-être la trace de Dieu en nous. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut consentir à sa finitude, à sa mortalité. D'une certaine manière, on n'y consent jamais, et tant mieux. Mais, de fait, il y a ce porte-à-faux. Le monde n'est pas suffisant pour combler notre désir. Alors, chez certaines personnalités, c'est encore... personnalité un peu artiste, un peu, c'est encore plus fort, parce qu'ils le vivent dans un déchirement intérieur, un drame. Le romantisme, c'est ça. Hein. Au tournant du 18e, 19e siècle, le romantisme, c'est ça. C'est que tout d'un coup, le monde extérieur apparaît tout petit et le monde intérieur immense. Alors que c'était plutôt l'expérience inverse qui était faite à l'âge classique. C'était l'homme apparaissait perdu dans... et là tout d'un coup évidemment on découvre que le monde ne pourra jamais répondre à la totalité des désirs. Donc je crois que c'est une des structures de compréhension de ce texte. D'autre part, on va lire la suite. N'ayez pas peur, il y a en fait des contradictions partout. C'est peut-être aussi pour ça
que
j'aime bien ce texte. Oui, c'est plein de contradictions. Il commence quand même en disant du rire, j'ai dit, c'est fou. Et de la joie, qu'est-ce que cela fait ?
Bon. C'est une bonne question.
Il
creuse la question dans la suite du texte. Il dit, qu'est-ce que ça fait ? Il dit, pas grand-chose.
Oui, mais il y a d'autres passages où il dit que le rire, c'est un peu. Enfin, c'est complet. Enfin, nous, on n'oserait pas le dire. Parce qu'on estime que, quand même, il y a une. On a vu tous Le Nom de la Rose, etc. Il y a une bonne santé du rire. Et puis on a lu Rabelais, on connaît un peu. Il y a une bonne santé du rire. Mais de fait, quand même, il n'est pas pour les joies bruyantes. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas lisser le texte, de toute façon.
Voilà. Non, c'est vrai.
On continue ?
On continue, il faut lire.
Voilà,
ensuite,
faut lire.
La deuxième page.
Bénédicte, non ? Deuxième page.
Alors, moi je me dis en moi-même, ce qui arrive à l'insensé m'arrivera aussi. Pourquoi donc ai-je été si sage ? Je me dis à moi-même que cela aussi est vanité. Car il n'y a pas de souvenir du sage, pas plus que de l'insensé, pour toujours. Déjà, dans les jours qui viennent, tout sera oublié. Et quoi ? Le sage meurt comme l'insensé. Donc, je déteste la vie, car je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil. Tout est vanité et poursuite de vent. Moi, je déteste tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que j'abandonnerai à l'homme qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou insensé ? Il sera maître de tout mon travail que j'aurai fait avec ma sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. J'en suis venu à me décourager pour tout le travail que j'ai fait sous le soleil. En effet, voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, science et succès. C'est à un homme qui n'y a pas travaillé qu'il donnera sa part. Cela aussi est vanité et grand mal. Oui, que reste-t-il pour cet homme de tout son travail ? Et de tous les efforts personnels qu'il aura fait, lui, sous le soleil. Tous ses jours, en effet, ne sont que douleur, et son occupation n'est qu'affliction. Même la nuit, son cœur est sans repos. Cela aussi est vanité. Rien de bon pour l'homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son travail. J'ai vu, moi,
que cela aussi vient de la main de Dieu. Car qui a de quoi manger, qui sait jouir sinon moi? Oui, il donne à l'homme qui lui plaît sagesse, science et joie. Mais au pécheur, il donne comme occupation de rassembler et d'amasser pour donner à celui qui plaît à Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite de vent.
Bien. Est-ce que vous avez peut-être des remarques à faire? Parce que comme c'est un texte un peu à part dans la littérature biblique, on peut peut-être prendre le temps de partager nos états d'âme. Oui.
Il n'y a pas un risque dans ce texte comme une invitation au conformisme, en fait. Sachant que ça vient de quelqu'un qui est très éduqué, enfin, assez éduqué, justement, qui est un sage, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, il invite à ne pas trop se poser de questions, à ne pas trop prévoir ce qui se passera demain. Ce qui est un peu en contradiction, parce qu'il me semble que dans la Bible, il y a un souci assez important de ce qu'on laisse aux générations qui viennent après.
C'est effectivement ce que dit Hannah Arendt, hein, dans, je crois que c'est dans La crise de la culture, où elle dit la grande force de la culture juive, la culture biblique, hébraïque, c'est d'être une religion, une culture de la promesse. Ce qui veut dire que chaque génération nouvelle n'a pas à réinventer tout. C'est un peu le problème de notre monde, c'est que chaque génération a peut-être l'impression de devoir tout réinventer, son système de valeurs. Ça, c'est épuisant. Et puis, ça crée une espèce de tension intérieure qui est complètement folle. Alors que quand on est dans un système de tradition et de transmission, effectivement, on peut s'appuyer sur les valeurs des anciens. On peut se dire qu'ils ont un peu déblayé le terrain et que... Voilà. Alors, évidemment, je pense que... c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'analogie que j'ai faite tout à l'heure entre cet homme qui parle au début du 3e siècle et nous me semble intéressante, parce que je crois vraiment que ce texte parle beaucoup à nos contemporains. D'ailleurs, c'est très frappant dans les célébrations d'obsèques, parce qu'on a des gens qui se sont un peu éloignés de l'Église, dont l'Église n'est plus, enfin, dont le langage chrétien n'est plus le langage principal. On a souvent la demande de ce texte, enfin, surtout le chapitre 3, hein, il y a un moment pour tout, etc., sur l'alternance du temps. Ce qui prouve bien que ça correspond un peu à l'attitude de l'homme contemporain. Alors, il se trouve que cet homme est un juif. Et qu'il cherche à utiliser, moi c'est ma thèse, hein, il cherche à utiliser le langage de l'époque, il l'a beaucoup assimilé, on voit bien que c'est devenu un peu son langage. Je ne dis pas seulement que c'est juste de l'inculturation pour faire plaisir et pour être lu ailleurs qu'en Palestine. Mais enfin, il y a quand même l'idée d'utiliser un langage qui n'est pas immédiatement le langage de sa tradition. Plutôt le langage du scepticisme grec ou oriental, et de maintenir quand même la foi, parce que c'est un discours de foi régulièrement. Enfin, le mot Dieu apparaît de temps en temps, hein. N'ayez pas peur. Et à la fin, d'ailleurs, il dit qu'au fond, tout est vanité, sauf Dieu. Bon, ça, c'est... Il a fallu des pages pour en arriver là, mais du coup, ça donne à l'affirmation un poids considérable. À tel point d'ailleurs que cette affirmation, il y a des exégètes qui ont dit « c'est pas possible, il peut pas dire ça ». Parce qu'il a dit tout le contraire pendant des versets et des versets, donc c'est pas possible qu'il invite à la crainte de Dieu et au respect des commandements. Ça doit être forcément une extrapolation, une... Voilà. Moi, je crois que c'est un discours de foi, profondément. Et c'est un discours de foi qui pousse la foi dans ses retranchements. Et c'est un texte qui est très honnête. Et nous, si nous étions capables de ça, ce serait formidable aussi. C'est probablement pour ça que... Moi, c'est très thérapeutique, hein, ma lecture de Qohelet. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que ça met des mots à une expérience qui est lancinante autrement. Une expérience qu'on fait tous, que les choses n'ont pas un sens clair, etc. Et donc, ultimement, je ne pense pas qu'il invite à s'agenouiller devant les idoles de la pensée conforme, hein, du politiquement correct, ou du laisser-faire, ou du minimalisme, ou du... parce que justement, c'est vrai qu'il y a quelques versets qui disent, à un moment il parle des adolescents, il dit ben, les adolescents doivent suivre leur pente, ils doivent aller où la vie les mène, ils doivent laisser leurs yeux suivre ce qu'ils convoitent. Et puis un verset après, il dit oui, mais attention, ils vont faire plein de bêtises, et donc la sagesse c'est quand même mieux. Mais comme tu as dit, mais c'est pas la sagesse qui les sauvera, mais la sagesse leur évitera quand même, et puis leur permettra de rester un peu plus sous le soleil. Parce que vous avez vu, tout ça, c'est sous le soleil. Hein, y a une série comme ça, non ? Qui se passe à Marseille, c'est pas... Et donc...
c'est pas ma culture.
Il y a l'idée que, de toute façon, on peut vivre un peu plus. Si on aime ça, ben, faut le faire. Et pour ça, il vaut mieux être un peu sage. Mais il ne dit pas que c'est ça forcément Dieu. Et ça, je crois que c'est une grande leçon, parce qu'on a toujours tendance, nous, à confondre Dieu et la nature, ou à confondre Dieu et l'événement, à dire que ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, ou bien de dire, bah, si on est raisonnable, si on ne fait pas trop de bêtises, si on use de tout avec modération, bah, Dieu, voilà, ne nous punira pas. Bah, manque de peau, l'Ecclésiaste dit le contraire. On peut ne pas fumer et puis avoir un cancer des poumons. C'est ça que dit l'Ecclésiaste sans cesse. Et donc, effectivement, se détourner de Dieu parce que la nature n'a pas été sympa, l'Ecclésiaste nous dit « Attention, vous confondez deux plans. » Les gens qui disent « Je me suis détourné de Dieu parce qu'il m'est arrivé ceci ou cela », l'Ecclésiaste dit « Ça ne peut pas être tout à fait du même niveau. » C'est intéressant, c'est ce qu'a dit d'ailleurs, tu me permettras de citer le pape François, c'est ce qu'il a dit au président de la République lorsqu'il l'a reçu. Il lui a dit, vous savez, la nature pardonne peu, seul Dieu pardonne. C'est magnifique. C'est l'expérience de Coëlette. Et effectivement, la nature, elle a son propre fonctionnement. Si on identifie Dieu à la nature, on tombe dans le panthéisme, on tombe dans le paganisme. C'est ce que font beaucoup de gens, parce que c'est une tentation permanente de croire que la nature, le fonctionnement biologique, c'est Dieu. Il y a un écart entre Dieu et la nature. Alors après, comment il faut le mesurer, c'est difficile. Alors, pour en revenir au conformisme, on peut faire cette lecture-là. Et on peut faire une lecture de foi. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, l'idée d'un canon. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mode de lecture. Vous savez, il y a plusieurs types d'exégèse. Il y a l'exégèse historico-critique, qui va dire, ce que j'ai dit, c'est un texte du 3e siècle. Bon. Il y a l'exégèse symbolique qui va dire, oui, mais quand il dit tel mot, ça veut dire autre chose. Bon, il y a l'exégèse structurale qui va mettre en lien, voilà. Et il y a l'exégèse canonique aujourd'hui, qui est très en faveur dans les milieux universitaires, qui dit qu'on ne peut lire un texte qu'en pensant qu'il appartient à un canon. Qu'on ne peut pas lire isolément. C'est très frappant. Si vous allez à la FNAC, vous allez trouver l'Ecclésiaste en volume séparé. Il y en a plein. Des traductions un peu branchées, tout ça. Des traductions un peu rock'n'roll, un peu... Voilà. Parce que c'est Moi, je connais des gens qui reviennent à la foi grâce à l'Ecclésiaste. Et il ne faut pas en rester là. Il faut faire une lecture canonique. Il faut lire l'Ecclésiaste avec l'Exode. Il faut lire l'Ecclésiaste avec les psaumes, avec les évangiles. Pour un chrétien. Et là, du coup, c'est cette tension qui devient intéressante. Si on le lit pour lui-même, on risque effectivement de tomber dans une espèce de mode d'emploi de...
Justement, je n'ai pas l'impression que ce soit du conformisme. Au contraire, il dit que la sagesse, bon, c'est quand même pratique, mais que ça a rien de... que ça donne pas un sens formidable à l'existence, qu'il n'y a pas là c'est des trucs pratiques, mais que ça ne donne pas sens à la vie. Et donc, finalement, ça relativise la sagesse. Et donc, on va le voir d'ailleurs dans le chapitre 3, peut-être qu'il faut qu'on se dépêche de lire ça, parce que quand même c'est important, je crois, ce chapitre 3. On va voir que, si finalement, s'il peut y avoir un temps pour tout, ça invite au contraire vraiment à la réflexion, à la prière et à recevoir une sagesse qui est beaucoup plus contingente, beaucoup plus une sagesse de l'instant reçue de Dieu. Et donc, au contraire, ça n'invite pas du tout au conformisme. Parce qu'il n'y a plus que, des instants dans une existence particulière. Il n'y a pas, on n'est pas dans un, justement, avec des devoirs qui sont inscrits dans des grandes tables de marbre. Il faut exactement tout bien faire, le rite comme il faut, la morale comme il faut, ou bien perfectionner ses vertus. Au contraire, on est là dans une... il s'agit de... d'être dans une vie à construire, finalement. Donc moi, je ne vois pas du tout de conformisme.
Oui, mais je pense que ce que monsieur veut dire, c'est qu'au fond, tout le monde pense un peu ça, in petto, sans se l'avouer toujours. Et que donc, d'une certaine manière, il n'y a pas besoin de lire l'Ecclésiaste pour arriver à dire que, bah, de toute façon...
On est bourré de scrupules, on voudrait bien faire, et on se dit, voilà, pour bien faire, on m'a toujours dit qu'il fallait faire ça. Ben, l'Ecclésiaste, dans un sens, il dit, ben non, c'est pas comme ça que ça marche.
Ça nous libère de voir que d'autres pensent comme nous. Et que, d'une certaine manière, moi je trouve ça magnifique, que cette pensée, qui pourrait être une pensée extrêmement, comment on pourrait dire, humaine, trop humaine, de se dire que voilà, on a trimé toute sa vie et puis on va laisser l'héritage à quelqu'un qui va peut-être le dilapider. C'est ça qui est dit.
Ou faire n'importe quoi.
Je crois que tout le monde a pensé à des choses comme ça. Ou faire n'importe quoi, voilà.
Bill Gates donne tout de son vivant, comme quelques milliardaires, tout de son vivant, disant, mais mes enfants, ils auront déjà bien assez. S'ils veulent avoir des sous, ils n'ont qu'à travailler.
Eh bien, moi, je trouve formidable que la Bible ait mis cette pensée très humaine dans son canon.
Mais je sais pas si c'est humain, il dit la sagesse, la science, la joie viennent de Dieu, c'est un don de Dieu.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est une juxtaposition de choses. Tu as une vision plus systémique que moi. Moi, je vois vraiment une juxtaposition de choses.
Je vois pas une juxtaposition, je vois c'est une écriture plus poétique et plus
fragmentaire,
plus il réfléchit, il écrit à voix haute, il pense à voix haute,
oui,
finalement,
oui.
Ou à plume sur le papier, le parchemin, ou le papyrus plutôt. Mais quand même, il y a une pensée qui se développe, qui explore, qui fait le tour, qui fait le tour et qui finalement revient toujours là. Mais peut-être on va lire le chapitre 3 et on va voir que aussi après ces tours et ces détours qui explorent, on en revient quand même à ce don de Dieu, finalement, comme étant la chose solide et vraie qui sert de point, finalement, d'ancrage. Qui c'est qui peut nous lire ce joli chapitre 3? Allez,
il faut un homme.
Jean-Claude.
Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour saper et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps de guerre, et un temps de paix. Quel profit à l'artisan du travail qu'il fait? Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée sans que l'homme puisse découvrir œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin.
Oui, c'est l'œuvre, en fait, je crois. Oui, oui.
Oui. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis, tout homme qui boit, qui mange, et boire et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face. Ce qui est déjà, ce qui a déjà été.
C'est ce qui est a déjà été. Oui, oui.
Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu va rechercher ce qui a disparu. J'ai encore vu sous le soleil qu'au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu'au siège de la justice, là était la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour chaque chose et pour chaque action. Je me suis dit en moi-même, au sujet des fils d'Adam, que Dieu veut les éprouver. Alors on verra qu'en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête, c'est un sort identique. Telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là, ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des fils d'Adam qui monte, lui, vers le haut, tandis que le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre. Je vois qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part. Qui, en effet, l'emmènera voir ce qui sera après lui?
Donc moi je trouve que c'est un beau chapitre là qui n'invite pas au conformisme, au contraire. C'est, puis je trouve que c'est le temps, c'est un temps pour quelque chose. Ça déjà, ça invite à la réflexion. Ça invite à la réflexion. Et puis, ce qu'il y a de bizarre, c'est que donc il y a 14 paires de choses, ça fait 28, voilà. 28, mais il n'y a pas dedans ni la réflexion ni la prière. Ah, donc, à mon avis, la réflexion et la prière, c'est compris dans sous le ciel, en fait. C'est-à-dire qu'il faut placer ça sous le ciel et il faut essayer de voir. On a du temps, on a un moment. Tous, on a là un moment à égalité. Comment on va l'informer, ce temps? Ce moment, il nous est donné pour quelque chose. Eh bien, ça pourrait être beaucoup de choses très différentes. Et ça, c'est à chercher sous le ciel. On vient juste de passer dans le passage de juste avant. C'est Dieu qui donne la sagesse, la science et la joie. Et donc, c'est à chercher sous le ciel. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le temps qui nous est donné? Alors, ces temps, ça part d'enfanter, et c'est le premier. Ça va jusqu'à la paix, en fait. Donc ça. La paix, c'est un sens plus riche en hébreu qu'en français. La paix, c'est vraiment quand quelque chose est au bout de la construction, on arrive à un état stable, parce que la maison, elle arrête d'être en chantier pour être finalement complètement bâtie. La maison, la construction aboutit à la paix, c'est-à-dire à la stabilité de la maison, et les travaux sont terminés. Donc, on est entre la naissance et la paix. Et entre les deux, ben, y a une invitation justement à être dans ce temps de création finalement, entre l'enfance et la paix, et de chercher comment est-ce que ça va pouvoir se goupiller. Il y a un passage là qui est mal traduit à mon avis, Dieu, donc une méditation sur Dieu, vous savez, je vois l'occupation que Dieu a donnée aux fils d'Adam, ils ont bien fait mes fils d'Adam, parce que là aussi on voit la référence hein, à cette création finalement hein. Dieu fait toute chose belle en son temps, à leur cœur il donne même le sens de la durée. Bon, ça c'est quand même vraiment aplati, parce que dans leur cœur il a mis l'éternité, en fait, littéralement en hébreu c'est quand même autre chose. Il a donné l'éternité dans le cœur, et ça c'est quand même quelque chose qui est assez puissant. On a ça dans le cœur, comme tu disais, en creux finalement. Cette éternité qu'on peut sentir, j'allais dire, mais c'est comme le dit le Christ, cette éternité, elle a à vivre maintenant, dans une vie par la foi, finalement. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans, parce que le fait qu'il y ait 28 choses à mettre dans notre panier, à mettre dans notre temps, que notre temps soit pour quelque chose, il y a 28 choses à mettre pour informer. Et le 28, bon, c'est 4 fois 7, vous savez que c'est des chiffres très ronds en hébreu. 4, c'est plutôt le monde, c'est la poussière du sol, c'est la dama de l'Adam. Et le 7, c'est le 7 de la bénédiction du 7e jour de la création, c'est le 7 de la bénédiction, c'est le 7 du souffle auquel nous courons après la poursuite du vent, c'est la poursuite du souffle, la poursuite du 7 qui seul peut donner une verticalité finalement à notre 4 de la poussière du sol. Alors oui, en nous-mêmes, on n'est pas autre chose qu'un animal, et notre souffle, qui sait s'il va monter plutôt que descendre? Ça, c'est une bonne remarque. Notre Abel, il est temporaire, il est évanescent, et pourquoi est-ce que l'Abel de l'homme monterait plutôt que l'Abel de l'animal descendrait? Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, dans la Genèse, l'homme est créé en poussière, il reçoit le souffle de Dieu, et la Genèse nous dit Dieu créa les animaux et il en fait aussi des âmes vivantes. Donc aussi, voilà, sauf que l'homme, pour être une âme vivante, eh bien, il est à la fois poussière et ce souffle de Dieu, ce vent que nous poursuivons. C'est Paul, à la fin de l'hymne à l'amour, il dit « poursuivez l'amour », en fait, c'est ça, c'est poursuivez le vent, poursuivez le rouar de Dieu, poursuivez cet esprit qui vous précède, qui court devant, et donc je crois qu'il y a chose dans cette leçon-là, là-dedans, finalement, de cette... poursuite d'une certaine verticalité, finalement, que nous sentons dans notre cœur, en fait, cette éternité, ce souffle, non?
Oui, il y a aussi une autre leçon, alors c'est peut-être plus trivial, ou plus moral, ou plus lié à l'expérience quotidienne, mais lorsqu'il dit, par exemple, parce que c'est dit de manière un peu emphatique, alors on peut passer à côté... J'ai encore vu sous le soleil qu'au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu'au siège de la justice, là était la méchanceté. Alors on peut lire ça, bien sûr, comme si c'était les Védas, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que j'ai vu des incompétents au pouvoir. C'est ça qu'il dit, hein. J'ai vu au siège du jugement la méchanceté, c'est que les gens ne sont pas à leur place, que là aussi c'est en porte-à-faux, que ceux qui pourraient être de bons magistrats ne le sont pas. Ceux qui pourraient être en position de juger, eh bien, finalement, ceux-là ne le sont pas. Il y a toute une thèse dans les milieux, vous savez, qui étudient l'œuvre de Bourdieu, qui disent, voilà, on voit disparaître de l'université des gens qui auraient des choses à apporter, mais qui ne se reconnaissent pas dans le conformisme intellectuel, les mécanismes de reproduction. Alors, chaque corporation crée ses mécanismes de reproduction, alors qu'ils vont être accentués par des désirs de revanche sociale, etc. Et au fond, voilà, c'est une expérience basique. C'est qu'on a eu des chefs incompétents, et ça, au lieu d'en tirer de l'amertume, du ressentiment, de l'aigreur et de la tristesse, eh bien non. Dieu jugera le juste et le méchant. Il y a un temps pour chaque chose et pour chaque action. C'est pour ça que c'est très apaisant. Si on veut bien comprendre ce qui est derrière... L'expérience qui est derrière, c'est une expérience que tout le monde peut faire, dans le monde professionnel, dans l'Église aussi, bien sûr. Tout le monde n'est pas à sa place. C'est vrai dans toute réalité humaine. Eh bien, au lieu d'en contracter de la tristesse, de l'amertume, du besoin de vengeance, eh bien non, voilà, il faut voir les choses de très haut. Et c'est ça qui est très beau, parce que tout ça est à ras de l'expérience humaine, et en même temps, on dit il faut prendre de la distance avec tout ça, il faut voir les choses. Et d'autre part, et on va peut-être s'acheminer vers la fin, lorsqu'il reprend finalement l'anthropologie de la Genèse, tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière, tout retourne à la poussière, c'est très beau, et là ça va à contre-courant des pensées de l'Antiquité, qui sont des pensées quand même du destin. Il n'y a pas de fatalisme dans Coëlette. Il y a une résignation par moment, mais ce n'est pas un fatalisme. Il n'y a pas un fatum. Il n'y a pas une espèce d'entité qui surplomberait et qui enfermerait, comme dans la tragédie grecque. Ce n'est pas un monde tragique. C'est un monde où les choses se reproduisent, elles arrivent, elles surviennent, elles naissent, elles meurent. Mais il y a une volonté de dépassionner, de regarder ça comme étant quelque chose de normal. C'est la buée, c'est la belle. Et effectivement, je crois que c'est la grande différence avec les pensées qui cernent la pensée biblique, c'est que la pensée biblique refuse d'enfermer l'homme dans une destinée, dans un destin, dans un fatum. Et d'autre part, je pense qu'aussi, il y a une relativisation de la sagesse. La sagesse est bonne, mais elle n'est pas le dernier mot. Elle n'est pas la deuxième personne de la Trinité, etc. Parce que, c'est ce que dira aussi le Nouveau Testament, la sagesse, c'est ce qui met en croix le Christ. Caïphe dit, il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que tout un peuple. C'est ça la sagesse. La sagesse finit toujours par dire des choses comme ça. Alors, est-ce que ce sont des truismes? Est-ce que ce sont des évidences? Est-ce que... Voilà, il y a un bon sens qui, quelquefois, peut être mauvais. Ça a beaucoup été dit. Saint Paul n'a cessé de le dire. C'est la sagesse qui met en croix le Christ. Donc, c'est déjà un avant-goût de cette... La sagesse est remise à sa place. Elle est remise à sa place comme une réalité humaine, comme d'autres. Si vous voulez vivre un peu plus longtemps, ben soyez sage. Voilà. De toute façon, à la fin...
À la fin, il n'y a que Dieu qui fait les choses belles en son temps, et lui, il fait quelque chose qui dure. C'est ce que nous dit là. C'est que lui, finalement, qui fait quelque chose qui dure. Hein. Bon, l'homme, justement, ne peut pas le découvrir, ce que ça peut vouloir... hein, mais... Il n'y a que ce que fait Dieu qui dure, c'est ce qu'il met ici. Et je crois que là, il y a une invitation quand même à chercher dans cette verticalité, de faire ça sous le ciel, finalement, donc sous cette inspiration, à la poursuite de ce souffle. Mais même si on ne l'atteint pas, à la limite, ce n'est pas la question, finalement. C'est dans cette recherche, c'est là que je verrais une invitation à une recherche, à une poursuite du souffle. Le reste, il y a peut-être ce lâcher prise justement de la simple sagesse humaine. Il en faut de la sagesse parce que ça aide à ne pas cogner contre les vitres, les murs et les parcs-mètres. Mais finalement, c'est plutôt dans cette poursuite, cette recherche du souffle. Et peut-être bon, que la foi, en définitive, c'est ça. C'est ça. C'est cette poursuite du vent, ce serait un peu péjoratif, mais c'est poursuite du souffle, d'un souffle plus profond et vrai que notre Abel.
Sous ces aspects un peu bonasses, c'est un texte très radical, d'une certaine manière. Si vous cherchez du définitif, du permanent, il n'y a que Dieu.
Il n'y a que dans ce que Dieu fait. Ouais. Et dans cette éternité, quand même, qui met dans le cœur de l'homme, là, il y a quand même quelque chose, cette éternité dans le cœur de l'homme qui peut le mettre en route, en mouvement, dans cette poursuite. D'un souffle plus pérenne, oui. Mais sans, peut-être, comme le bouddhisme peut-être peut le faire, hein, une sorte d'abandon du monde. Non, la joie, c'est quand même dans le travail en ce monde qu'il y a une vraie joie qui est donnée par Dieu. Et ça, c'est pas rien, quand même, il dit. Il dit, ça, c'est un don de Dieu et ça, bon, ça mérite d'être vécu.
Non ? Oui, mais je crois, en plus.
Pour le reste... à la limite, faisons confiance, puisque de toute façon, c'est Dieu qui fait de l'éternité. Nous, de toute façon, c'est... Qu'importe si c'est un peu temporaire, un peu puéril, pour la beauté du geste, pour la joie d'un beau geste dans le moment. Et puis cette invitation à la poursuite du souffle ultime, qui peut nous donner d'avoir peut-être le geste juste, voilà. Ça va très fort entre tuer, faire vivre, c'est quand même extrêmement... Alors que bien évidemment, tuer, c'est la pire chose qui puisse exister. Même ça, finalement, ça peut peut-être trouver sa place dans... Ou alors, au contraire, pour l'éviter, parce que ça doit être fait sous le ciel, enfin, je ne sais pas. Donc, il y a tout est permis, finalement, et tout n'est pas utile de Paul et d'Augustin. Oui.
Je ne sais pas, vous avez peut-être des remarques, sinon...
Tout va vers l'unique, c'est beau, hein, c'est vrai.
Il n'y a pas de règle de vie absolue. début du chapitre 3, qui fait affaire à cette conscience.
Mais c'est peut-être pas du relativisme.
Oui, c'est pas un scepticisme absolu non plus. Il essaie de cerner quelque chose qui est presque indicible.
Mais ça veut pas dire que tout se vaut et qu'on peut faire tout et son contraire, ouais. Ça a aucun sens. C'est pas du relativisme. C'est privilégier la recherche de l'acte juste dans le temps présent sous le ciel. Et avec Dieu, tout est possible. C'est pas rien n'est impossible à Dieu. C'est avec Dieu, on peut s'attendre à tout parce qu'il est le créateur et qu'il y a du neuf. Et donc, il faut trouver du neuf qui va conduire de l'enfantement à la paix. Et ça, qu'est-ce qui sera l'acte juste à un moment donné? C'est là que c'est pas du relativisme. C'est du... ouvrir à une inspiration
créatrice. C'est un grand
moment
de la pensée, en fait. C'est un grand moment de la pensée. Parce que c'est une pensée qui a déjà digéré plein de choses, qui essaie de retenir l'essentiel, de le dire en peu de mots. On sent derrière qu'il y a déjà des siècles, des millénaires même de réflexion sur l'homme. Il y a des textes comme ça hein, qui sont lisses. Il n'y a pas d'échafaudage, c'est pas lourd, c'est très, et ça dit une vérité. On rêve de le lire à Saint-Eustache. Ce serait pas mal, hein, comme Saint-Marc dit de façon très posée, très... Et parce que c'est déconcertant, les gens qui entendent ça, tout d'un coup... Parce qu'un récit comme Marc, il faut entrer dans le récit. Alors que là, tout d'un coup, on entend des aphorismes, des remarques.
Incroyable.
Et moi, je trouve que ce serait pas mal, ça.
Ou alors trouver un grand acteur qui puisse... un Depardieu qui lirait ça.
Moi, je connais quelques jeunes acteurs qui, à mon avis, seraient très bien. Depardieu avait fait pour le Saint-Augustin.
Oui, c'était incroyable. Bon, ben donc on se retrouve
pour
la Saint-Jean, prochaine fois.
À l'oratoire.
9 avril.
D'accord.
À bientôt.
Bonne soirée.